France Inter.
Passant du soufre au vert pour réaliser ses œuvres, l'artiste, plasticien, académicien et directeur de la Villa Dufresne, Jean-Michel Autoniel, a créé un univers éclatant, féerique et stellaire, suscitant l'enchantement. Sa première commande publique fut le kiosque des Noctambules de la place Colette à Paris, désormais indissociable de la station de métro Palais-Royal. Il a depuis émaillé divers lieux de ses créations, conjurant le spleen. Le 28 juin prochain débutera une exposition exceptionnelle inspirée par Pétrarque et articulée autour de la passion amoureuse, Autoniel Cosmos ou les fantômes de l'amour. Une déambulation artistique et poétique déployée sur plus de 10 sites emblématiques à Avignon, qui célèbre ainsi les 25 ans de sa désignation comme capitale européenne de la culture et les 30 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'événement sera accompagné par la sortie d'un livre illustré des aquarelles de l'artiste et accompagné de textes de Colin Lemoine chez Actes Sud, ainsi que d'un catalogue. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Jean-Michel Autoniel.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Je suis quelqu'un d'enthousiaste et je suis un artiste enthousiaste, ce qui est important pour moi. Je pense que dans l'enthousiasme, il y a quelque chose de l'ordre, quelque chose qui nous dépasse, qui nous porte. Et j'aime travailler avec d'autres artistes parce qu'on partage cet enthousiasme. Et là, j'ai la chance de dialoguer avec des artistes, notamment à la collection Lambert, avec des artistes contemporains, mais qui ne sont pas forcément là. Et ça, ça me porte.
Vous serez présent dans la collection Lambert, d'ailleurs, à Avignon.
Oui, c'est ça. Et c'est ce dialogue avec les autres artistes, c'est vraiment ça qui m'enthousiasme.
Et la partie solitaire de la création, est-ce que parfois, elle peut être douloureuse ?
Oui, elle l'est parce que justement elle est solitaire, mais elle est aussi tellement riche en joie, en reconnaissance, en partage, que on oublie vite ça.
Par la suite alors, une fois que l'œuvre est sortie.
Oui, par la suite, mais comme tout s'enchaîne, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une œuvre après l'autre, on fait plein d'œuvres en même temps. Enfin, je fais plein d'œuvres en même temps.
Vous dites qu'à travers vos œuvres, vous essayez de réenchanter un peu le monde.
Oui, c'est quelque chose que je martèle depuis maintenant 25 ans, depuis que j'ai fait ce fameux kiosque que vous évoquiez, Place Colette. J'essaye, alors au début, je paraissais un peu naïf avec cette vision du réenchantement, mais je pense qu'aujourd'hui, ce positionnement, il est partagé par plusieurs artistes, et je crois qu'on a envie justement de faire partie ou faire société à travers nos œuvres, et donc du coup d'apporter un peu d'espoir à travers les œuvres.
Vous avez passé votre enfance à Saint-Étienne, qui était alors une cité ouvrière dont l'exploitation minière de charbon était encore en activité, et vous dites que Saint-Étienne vous a apporté quelque chose d'essentiel, qui est la notion du travail.
Oui, c'est vrai que c'est aussi, je crois, mes parents, ma famille, la ville elle-même, cette notion, oui, que voilà, on devait travailler pour essayer de rendre la vie peut-être plus agréable ou simplement peut-être pour vivre. Et cette notion du travail, pour moi, elle est importante. Elle est importante dans ma création, oui.
Vous n'avez jamais éprouvé de paresse ?
De paresse ? Non, je ne suis pas quelqu'un de paresseux.
C'est rare. À Saint-Étienne, il y a eu l'un des premiers musées d'art contemporain. Est-ce que vous pouvez nous décrire le Jean-Michel Autoniel de 7 ans qui savait déjà qu'il ferait partie du milieu de l'art ?
Alors, oui, je ne savais pas que je ferais partie du milieu de l'art, mais j'ai découvert ce musée comme un endroit de rêve, un endroit où il y avait, je me souviens, Tony Cragg mettant des bouts de plastique trouvés sur la plage et faisant des espèces de lunes comme ça, ou de soleil. Et je me suis dit, mais je pourrais le faire, quoi. C'est un truc... moi aussi, je ramasse des bouts de plastique quand on part en vacances sur la plage et j'aime les couleurs. Et je pourrais faire ça. Et du coup, ça m'a ouvert une fenêtre, vraiment, de... Voilà, qui sortait de cette grisaille que vous évoquiez et de ce monde du travail et se dire qu'il y avait aussi une autre façon d'approcher le monde.
Vous avez fait des cours du soir aux Beaux-Arts très tôt ?
Oui, quand j'avais 7 ans, oui. Et j'allais aux cours du soir, je dessinais et puis après j'ai fait voilà, les études artistiques, comme on disait à l'époque.
Est-ce que vous vous disiez que vous quitteriez la ville ?
Oui. Oui, parce que la ville n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle a été 2 ans après que je sois parti. Donc j'ai eu beaucoup de chance de partir juste avant que ça ne change, sinon je serais resté.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Jean-Michel Autoniel, l'exposition Autoniel Cosmos ou les fantômes de l'amour sera visible à Avignon à partir du 28 juin, déployée sur 10 institutions et sites historiques de la ville. Ça présentera 260 œuvres et 140 œuvres inédites créées spécialement pour cette occasion et j'appelle Pétrarque dans ce studio.
Que béni soit le jour et le mois et l'année. La saison et le temps et l'heure et le moment. Le beau pays et le lieu où je fus atteint par 2 beaux yeux lesquels alors m'ont enchaîné. Et béni soit aussi le premier doux tourment que je sentis à être avec amour lié et son arc et ses traits dont je fus transpercé et la plaie qui pénètre au-dedans de mon cœur. Béni soit à jamais les mots que j'ai sans nombre répandu pour clamer le cher nom de madame, et mes soupirs, et mes larmes, et mon désir. Et bénisse à jamais toutes les écritures, où je lui donne un grand renom, et ma pensée, qui n'appartient qu'à elle, et où n'a part nul autre.
Extrait d'un sonnet de Pétrarque lu par Jean-Philippe Vidal pour la BNF. Pétrarque qui est tombé amoureux de sa muse, Laure de Sade, ancêtre du marquis de Sade, à Avignon, et qui lui a dédié son canzoniere. Jean-Michel Autoniel, est-ce que vous pouvez nous parler de l'inspiration que fut Pétrarque, puisque vous avez imaginé cette exposition colossale comme un recueil de poèmes ?
Oui, c'est-à-dire qu'Avignon, c'est bon, la cité des papes, ce que tout le monde sait, mais c'est aussi la ville de l'amour. C'est la ville où ce jeune homme tombe fou amoureux de cette femme qu'il croise et il va lui dédier des centaines de poèmes. Il va l'aimer, il va la haïr, il va l'aimer à nouveau, il va l'aimer encore plus quand elle sera morte et elle va ce fantôme de l'amour va le poursuivre jusqu'à la fin de ses jours. Et il répète un peu toujours la même chose, mais avec une variation... qui fait que chaque poème est toujours différent. Et j'ai eu envie de construire l'exposition comme une série de poèmes, selon les lieux. C'est-à-dire, moi aussi, parler un peu toujours de la même chose, mais différemment selon les lieux, de façon à créer une grande expo et pas une série de 10 petites expos. Donc on est dans une litanie, comme ça, avec plein d'œuvres qui se répondent les unes aux autres, et les musées et les lieux éclairent, je dirais, le sens de ces œuvres, le contexte, je dirais, éclaire le sens des œuvres.
Vous avez commencé par la poudre de soufre jaune pendant 10 ans et vous jouiez sur les mots soufre, souffrir. Vous avez, là, on parle justement de mort, d'être aimé. Vous avez perdu un premier amour dans des conditions tragiques et vous dites qu'il vous a fallu des années pour vous remettre de cela, que l'art a été une question de survie. Vous pensiez à cette époque rester éternellement l'artiste du soufre. Comment êtes-vous revenu à la vie ?
C'est un long chemin, mais je crois que ce désir de vie, je l'ai toujours eu, même si j'ai été un peu assommé pendant des années. Ce désir de vie, c'est une chose que j'ai en moi. Je suis optimiste, je suis quelqu'un qui cherche à transmettre la joie. Et tout ça, malgré la douleur, a survécu, s'est transformé, s'est métamorphosé en quelque chose de peut-être encore plus grand qu'il n'aurait été si je n'avais pas eu une douleur au début de... de ma vie amoureuse. Donc c'est vrai que cette histoire de Pétrarque, elle m'a aussi touché pour ça, pour ce parallèle intime. Mais c'est plutôt vers la lumière, ce que décrit Pétrarque d'ailleurs à la fin, quand il parle de son séjour près de la Sorgue comme étant un lieu, la Sorgue étant cette fontaine, enfin cette rivière avec une très belle fontaine à côté d'Avignon, où il finit ses jours en marchant pieds nus dans l'herbe et il va vers la lumière. Et voilà, donc c'est un peu ce que je cherche à transmettre, et cette exposition est tout sauf déprimante. Et au contraire, on est en pleine période, je dirais, d'extase et de joie, et c'est vraiment ce regard sur un amour joyeux que je montre aujourd'hui.
Vous avez employé le mot extase, et il y a des symboles religieux dans cette exposition. L'ami que vous avez perdu avait le désir d'entrer au séminaire, et vous dites qu'après sa mort, Jean-Michel Autoniel, vous êtes devenu plus mystique, plus contemplatif. Et j'aimerais vous interroger sur votre rapport à la foi et à la transcendance, ou au sacré.
Alors, je veux bien parler du sacré. C'est quelque chose je trouvais important en art. Tout à l'heure, on parlait d'enthousiasme. Il y a cette idée que l'art transmet quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et je crois que c'est ce qui fait que l'art résonne en chacun. C'est qu'à un moment donné, on est face à quelque chose un peu une notion d'absolu, de plus grand que soi, et moi je le vois du côté artistique, pas du tout du côté religieux. Mais Avignon étant la ville des papes et la ville du religieux aussi, on peut pas échapper à ça quand même, parce que des lieux d'exposition sont des chapelles, parce que l'endroit du coup de foudre de Pétrarque, c'est une chapelle, c'est là où il croise une jeune femme, et cet endroit du coup de foudre existe encore. Donc j'invite les gens à revenir sur ce lieu du coup de foudre, en espérant qu'il y en ait plein d'autres qui se passent à cet endroit-là.
Avez-vous déjà aimé comme Pétrarque, ou vous êtes-vous déjà senti adoré comme Laure?
Alors je veux bien répondre à la première partie.
D'accord.
De la question. Oui, je crois que j'ai aussi dans ma vision de l'amour une vision de l'absolu, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est important au quotidien. J'ai eu la chance de me reconstruire, de repartir dans une très belle histoire d'amour, et je suis content de la vivre et de la pleinement.
Quand on lit les sonnettes Pétrarque, on est frappé par la minéralité qu'il y a dedans, la référence aux perles, aux pierres, et ça m'a fait penser évidemment à votre travail, Jean-Michel Autoniel. Vous avez lu ces sonnets?
Ah oui, je les ai plus que lus, je les ai lus, relus, épuisés. Je m'en suis vraiment plus qu'inspiré dans cette exposition. D'ailleurs, il y aura un mur avec les quelques extraits de ce qui m'a le plus plu dans ces poèmes. Mais ce qui m'a plu aussi dans ces poèmes, c'est leur comment ils ont traversé les siècles et comment ils ont créé une nouvelle forme poétique, qui a fait que plein d'artistes s'en sont inspirés. Donc oui, Michel-Ange, Shakespeare, Pasolini ont utilisé cette forme artistique, poétique, pour la réinventer. Et moi, j'essaye de faire ça à travers des œuvres.
L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine.
Je cherche depuis à peu près 20 l'amour. Ans une occasion de passer l'amour de Mouloudji. Je le fais avec vous, Jean-Michel Autoniel. Commençons notre pèlerinage amoureux donc au couvent Saint-Clair d'Avignon, dans la chapelle. Vous avez évoqué ce lieu, puisque c'est le lieu où Pétrarque a vu l'or pour la première fois. Et vous avez imaginé là un cœur de verre rouge, donc un cœur sacré, ou un sacré cœur comme un ex-voto en dévotion à une divinité.
Un cœur inatteignable, parce qu'il est derrière une grille. Il existait une grille que j'ai fait dorer pour l'occasion. Donc derrière cette grille d'or, il y a un grand cœur en verre rouge de Murano qui est inatteignable, fascinant. Et donc c'est une sorte de métaphore de cet amour qui nous obsède et qu'on essaye de conquérir indéfiniment.
Vous vous accommodez facilement des chimères, de l'absolu, de l'infini, de ce qu'on ne peut pas atteindre ?
Facilement, je sais pas. J'essaye de me dire que tout ça, toutes ces chimères-là, elles sont porteuses de poésie et c'est ce que je cherche à apporter à travers mon travail. Ce parcours dans Avignon, c'est un parcours poétique avant tout. C'est un parcours où on va se laisser aller, on va découvrir justement ce qu'il y a de beau dans le réel, de merveilleux, de poétique. Et je pense que le poétique est très important aujourd'hui.
Vous êtes emparé de plusieurs symboles pour en faire des choses poétiques. Qu'est-ce que la croix des bateliers ?
Alors la croix des bateliers, là on revient au petit Jean-Michel qui a 7 ans, qui passe ses vacances au bord de, dans la Drôme, au bord du Rhône. Et là, il y avait cette tradition de bateaux ornés de croix complètement folles, très joyeuses. Et j'en garde une image, oui, entre la fête foraine et le rêve. Et donc, quand on m'a proposé d'exposer à Avignon, évidemment, on rentre à Avignon par le Rhône. Et on y rentre encore aujourd'hui, même symboliquement. Et donc, j'ai eu envie de rendre hommage à ces croix qui me faisaient rêver enfant. Et j'en ai fait une sorte de porte, des choses qui sont comme un phare qu'on voit de loin. Et quand on arrive à Avignon, on voit cette chose dorée, comme ça, sur le pont qui est comme un appel à l'extérieur de la ville, parce qu'Avignon, c'est une ville quand même derrière des remparts. Et donc là, avec ce pont, elle tend la main vers la Provence, vers la banlieue d'Avignon, vers les gens qui vivent autour, et elle les invite à venir.
Vous avez déjà été inspiré pour une œuvre par un de vos rêves ?
Alors, j'ai un grand problème, c'est que je ne me souviens d'aucun de mes rêves.
C'est peut-être une bonne chose, parce qu'il y a des rêves
à part un.
Vous voulez le raconter ou vous préférez le garder pour vous ?
Non, je vais le garder pour moi, mais je fais toujours le même rêve. Enfin, je me rappelle que d'un seul rêve qui est toujours le même que je fais depuis que je suis enfant.
Pas trop désagréable ?
Non, parce que c'est un rêve qui me permet de... un rêve d'évasion.
Alors, en parlant d'évasion, je vais faire vraiment quelque chose de très poussif. En parlant d'évasion, vous pourrez aller à Avignon, rêver sur vos œuvres Jean-Michel Autoniel, et je crois que de la danse est prévue dans la cour d'honneur du Palais des Papes, le 1er et le 2 août.
Oui, ça c'est un moment de grâce, je l'espère, mais un moment de grande joie. Tout à l'heure, je vous disais que ce qui m'enthousiasme, c'est justement travailler avec d'autres artistes. Et là, de créer un projet avec Caroline Carlson et Hugo Marchand pour la cour d'honneur et y mettre des œuvres, parce qu'au départ l'idée c'était simplement de mettre des œuvres dans la cour d'honneur, enfin simplement, c'est des choses qui n'ont jamais été faites, donc c'était assez, et c'est une cour monumentale comme tout le monde le sait, et dialoguer avec cet espace, avec la minéralité du lieu, j'ai eu tout de suite envie de me dire essayons de partager ce moment avec des gens du spectacle. Et donc, Caroline Carlson, j'ai la chance de la connaître grâce à l'Académie des Beaux-Arts, puisqu'elle est aussi, elle est académicienne. Et donc, et Hugo Marchand, on avait déjà fait un projet ensemble qui n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Donc, c'était l'occasion de se dire, essayons de refaire quelque chose ensemble. Et ça sera un moment, oui, exceptionnel. Exceptionnel parce que Caroline a commencé, a été connue... En 72, je crois, au moment de la grande expo Picasso, d'ailleurs, qu'il y avait au Palais des Papes, elle a fait son premier spectacle, qu'il a fait connaître en France. Et là, elle va arrêter sa compagnie, elle va continuer à écrire des spectacles, mais elle va arrêter sa compagnie cette année. Donc ça sera son dernier spectacle aussi. Donc il y a vraiment une sorte de boucle comme ça. Et Hugo, je crois qu'il a dansé très peu de danse contemporaine. Donc pour lui, c'est aussi une autre façon de s'exprimer. Et puis tout ça est écrit pour mes œuvres. C'est-à-dire qu'ils ont écrit ensemble une performance dansée inspirée par mes œuvres. Donc c'est un cadeau qu'on se fait tous les uns les autres qui est formidable.
Il y a certaines de vos œuvres qui ressemblent à des chapelets. Je pense par exemple aux constellations inspirées des signes astrologiques. Il y a des astrolabes, des fontaines, des choses qui évoquent l'infini comme des nœuds. Il y a une œuvre avec Lacan et j'ai oublié le nom.
Le nœud de Lacan.
Le nœud de Lacan, ben voilà, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un lapsus ou un acte manqué, non ?
Le nœud de Lacan, c'est une histoire formidable parce que c'est... Lacan a essayé à un moment donné de figurer comment le réel, le symbolique et l'imaginaire se tournaient autour. Évidemment, tout ça lié à la passion amoureuse. Et j'ai découvert ces dessins que Lacan a fait et ces photographies, puisqu'il faisait des petits nœuds en corde qu'il photographiait. Et tout ça est très... Il y avait un côté un peu œuvre de Christian Boltanski dans ce travail de Lacan qui m'a beaucoup plu. J'ai regardé ça et j'ai commencé à en faire des sculptures. Et suite à ça, il y a un mathématicien mexicain qui s'appelle Aubin Arroyo qui m'a contacté parce qu'il avait vu des images de ses œuvres sur Internet en me disant « Mais vous travaillez dans la même théorie que moi. Moi, je travaille sur l'infini, les reflets infinis. » Et je lui ai dit « Écoutez, moi, je ne suis pas du tout mathématicien. Je ne suis pas mathématicien, mais essayons de se rencontrer. » Et on a fait pendant 10 ans des œuvres autour de ces notions de l'infini, des reflets infinis, et de peut-être, oui, cette idée d'égrener le temps à travers cette idée du chapelet qu'on retrouve dans toutes les cultures. Mais donc voilà, et donc il y aura des œuvres, ces dernières, je dirais, métamorphoses de ces nœuds lacaniens deviennent des constellations avec les étoiles. Et il y a une partie du Palais des Papes qui est transformée en planétarium. Ouais.
Et l'astrolabe, qu'est-ce que ça symbolise pour vous ?
L'astrolabe, c'est quelque chose qui est entre une vision scientifique et une vision... c'est entre astrologie et astronomie, voilà. Et donc, c'est en même temps un phare, c'est quelque chose qu'on reconnaît et quelque chose auquel on a envie de se rattacher. Et cette notion du phare, elle est très présente dans l'exposition, puisqu'il y aura une grande œuvre, très grande œuvre, qui fait 11 mètres de haut, qu'on est en train d'installer là. Donc, je suis parti ce matin pour venir vous voir ce soir, j'en suis très content. Mais, et donc, l'équipe est en ce moment en train de monter une pièce de 11 mètres de haut. Donc, j'invite les Avignonnais, s'ils veulent voir cette performance, à aller voir ça sur la place du Palais. Et ça sera un des grands phares entre le Louvre en Avignon et le Palais des Papes. Et qui, ça va nous inviter aussi à aller voir les autres musées.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Jean-Michel Autoniel, on pourra voir Cosmos ou les fantômes de l'amour à Avignon à partir du 28 juin. Qu'est-ce que votre œuvre est in Arcadia Ego, le tombeau de l'amour creusé dans un sol de briques bleu glacier. Juste la phrase creusé dans un sol de briques bleu glacier, ça fait rêver.
L'endroit où elle est exposée fait rêver. C'est une des plus belles chapelles du Palais des Papes avec des fresques en lapis lazuli. Et au sol, j'ai fait... un sol de briques bleu glacier dans lequel j'ai creusé un tombeau. Voilà.
Un cénotaphe.
Un cénotaphe.
Un tombeau élevé à la mémoire d'un mort qui ne contient pas son corps.
Exactement, oui. Et ça, on retrouve ça aussi au lapidaire, puisqu'il y a une très belle stèle au lapidaire. Dans le lapidaire, qui est un autre musée, il y a donc tous les tombeaux qui sont montrés, mais aussi tous les autels divinatoires, tous ces lieux, toutes ces pierres, en fin de compte, qui sont... Et il y a un tombeau que j'aime beaucoup, c'est un jeune marin qui pleure sur le fait de ne pas avoir de tombe. Et donc, on voit un très joli jeune homme, comme ça, en bord de mer, en train de pleurer, et en fin de compte, il pleure sur le fait qu'il n'a pas de tombe, puisqu'il est mort en mer. Donc, c'est plein d'histoires comme ça, cette exposition.
Que sont les yardangs ?
Alors les yardangs, ça c'est une forme que j'aime beaucoup puisqu'elle est, c'est une forme naturelle qui a été sculptée par le vent dans le désert et qui crée ces formes un peu comme des ordres d'ectoplasmes comme ça qui s'élèvent. On a ça en France avec les demoiselles coiffées par exemple qui sont aussi des choses sculptées par le vent et par la nature. Et j'aime beaucoup quand la nature nous impose des formes et qu'elle fige le temps. Et j'avais fait ça un peu avec ma grande vague de briques qui était comme arrêtée, comme un tsunami arrêté, arrêt sur image. Et dans le yardang, il y a ça, sauf que c'est beaucoup plus abstrait. Et il y en aura des très grands sur la scène autour d'Hugo Marchand et de Caroline Carlson. Et il y en a aussi un dans une très très belle salle du Palais des Papes qui est entièrement... un peu détruite comme ça, avec des fresques qui tombent. Et c'est un des endroits les plus émouvants du palais dans lequel j'ai la chance d'exposer.
Il y aura aussi des nimbes ou des disques d'or qu'on voit parfois sur certaines peintures religieuses. Est-ce que vous croyez à l'aura ?
Alors je crois, oui, à l'aura, beaucoup. Je crois qu'il y a des choses, des êtres, mais des œuvres surtout, qui nous renvoient une sorte de lumière ou d'espoir. Et c'est ce projet autour des nimbes et des auréoles, c'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Je voulais créer des sortes de disques très précieux, en mélangeant feuilles d'or et verre, que j'ai toujours rêvé d'accrocher au mur, comme des sortes de... Oui, peut-être d'ovnis comme ça qui passent à travers les musées. Et là, dans la collection du Louvre en Avignon, au Petit Palais, il y a toute cette collection magnifique de tableaux Renaissance. Et ce sont quasiment que des tableaux religieux. Donc il y a des auréoles partout. Et moi, j'ai toujours vu ces auréoles comme étant des sortes d'éclipses que la tête du saint ou de la Vierge ou de l'ange cacher un soleil. Et donc, je montre tous ces soleils cachés.
Nick Cave et Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, qu'on a choisi pour illustrer, Jean-Michel Autoniel, votre amour des fleurs. Avignon, je crois que la fleur d'Avignon, c'est la garance.
Exactement,
et
oui.
Bon, là, on parle de rose parce que pour les 30 ans de la pyramide du Louvre en 2019, votre série La Rose du Louvre est entrée dans la collection permanente et vous avez publié L'Herbier Merveilleux, note sur le sens caché des fleurs du Louvre aux éditions Actes Sud. Et il y a une chose qui m'a frappée, c'est que dans une interview, vous dites que ce qui vous intéresse dans la fleur, c'est son architecture.
Oui, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un... Alors, je ne suis pas le premier, hein. Il y a plein d'artistes qui, depuis la nuit des temps, regardent l'architecture des fleurs. On voit dans toutes les magnifiques architectures arabo-mauresques, par exemple, où tout est né de l'observation de la nature et des fleurs, et des étoiles aussi, d'ailleurs. Oui, donc j'aime beaucoup regarder l'architecture des fleurs et donc en faire des sculptures, en fin de compte, m'inspirer de ces architectures pour en faire des sculptures. Mais avant que ça soit une sculpture, bah, je passe beaucoup par le dessin, la peinture, pour arriver à la sculpture.
De l'ouverture de la fleur à son éclatement.
Oui, du bouton. Alors là, on rejoint les histoires, le roman de la rose, mais c'est vrai que c'est du bouton de la rose jusqu'à l'éclosion.
J'ai choisi éclatement parce que c'est vous qui parliez justement du fait que la fleur éclate.
Oui, la fleur, enfin certaines fleurs, oui, se donnent entièrement et donc du coup à ces différentes étapes. C'est-à-dire que observer la nature, c'est pas quelque chose de figé. On observe, et dans cette exposition, par exemple, on aura la chance de voir les œuvres au printemps, été, automne, hiver même, puisqu'elle finit en janvier. Donc la nature va aussi influer sur les œuvres, comment on les regarde, comment on les perçoit. Et moi, dans ma création, cette notion du temps, elle est importante.
Vous aimez la flore, vous aimez les jardins, je crois que vous en avez cultivé un à 7.
Oui, c'est un petit jardin, mais il faut commencer raisonnablement, parce que par rapport à la nature, on est très vite dépassé, surtout quand on est en bord de mer, et où les embruns viennent systématiquement tuer tout ce que vous plantez, mais je vais y arriver.
C'est presque l'inverse de vos œuvres d'art, vous avez moins de contrôle.
Oui, on a un désir de contrôle, mais on est vite dépassé. Oui.
Il y a quelque chose d'assez joli, c'est que vous comparez les jardins pour vous ressourcer aux œuvres d'art. Vous dites qu'on peut se ressourcer dedans pour ensuite attaquer la réalité.
Oui, ben le jardin, ça, c'est une des figures du lieu l'Éden, quoi, l'endroit protégé où on va se retrouver soi-même pour pouvoir aborder le monde, sortir du jardin à un moment donné pour affronter le monde. Et je crois que les œuvres d'art ont aussi ce même pouvoir, c'est-à-dire de nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes, sur nos émotions, pour ouvrir la porte et affronter ce monde qui est quand même un peu dur en ce moment.
On entend votre choix musical, Jean-Michel Autoniel. C'est l'étude numéro 9 de Philip Glass par Víkingur Ólafsson. Et c'est assez amusant parce que je vais vous demander évidemment de nous parler de Philip Glass, mais dans un article de 2009, vous disiez ne pas aimer la musique et faire même la guerre dans l'atelier pour qu'il n'y en ait pas.
Et c'est toujours d'actualité.
Vous n'en écoutez pas ?
Non, j'écoute pas de musique parce que là, par exemple, vous voyez, j'étais complètement parti ailleurs. Je ne sais même pas si j'allais vous répondre.
Parce que ça vous happe.
Ça me happe complètement. Et ça me fait partir dans un état, oui, qui est formidable. Mais cet état est tellement fort par rapport à mon travail, que je n'arrive pas à travailler quand j'écoute de la musique.
Et dans ce morceau de Philip Glass, il y a une impression de mobilité, de mouvement.
Oui, c'est-à-dire que ça va être aussi une des trames du spectacle qu'on fait avec Caroline et Hugo le 2 août, là. Le 1er 2 août, mais j'aime bien cette idée de la répétition, le minimalisme, c'est quelque chose que j'aime, et c'est un peu mes premiers amours en art, et donc à travers cette musique, je retrouve ça. C'est vrai que les artistes avec qui je vais exposer à la collection Lombert, que ce soit Donald Judd, que ce soit Carl André, sont imprégnés de cette génération qui est pas ma génération, mais la génération qui m'a marqué. C'est-à-dire que quand j'étais tout jeune artiste, ces figures-là, aussi bien en musique qu'en art, étaient incontournables et porteuses d'émotions et de beauté pour moi.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs, et vous l'avez déjà citée à deux reprises dans l'émission. Elle est liée à Hugo Marchand.
Oui,
c'est
son association, parce qu'il fait quelque chose à travers cette association qui est formidable.
Étoiles au château.
Les étoiles au château, et avec d'autres danseurs de l'opéra d'ailleurs, c'est rendre accessible quelque chose qui paraît élitiste, qui est la danse classique. Et je crois beaucoup à ça, moi, dans mon travail aussi. C'est-à-dire que le fait d'exposer à Avignon, dans des musées qui sont gratuits, par exemple, pour moi c'est très important, ou faire des œuvres en espace public, c'est très important. Travailler avec des écoles, ce que je fais aussi à Montreuil, où j'ai mon atelier, c'est quelque chose que j'aime faire, et peut-être parce que justement, moi enfant, j'ai bénéficié de ça et j'ai envie de le retransmettre. Et je trouve que ce que fait Hugo à travers cette association, et ce que font tous les danseurs de l'opéra qui participent à ça, est très très généreux. Je sais qu'il va, il va montrer ça bientôt, je crois, je sais plus, enfin bientôt à Chambord, je crois. Voilà, donc il va faire cette et tout ça à un prix très très accessible qui n'a rien à voir avec le prix d'un billet pour l'Opéra de Paris. Donc cette idée d'un artiste qui descend dans la rue, qui s'adresse à un public très large, je crois que c'est important.
Musique tribale, Al-Attiya, interprétée le jour de la fête nationale du Qatar. Et là, vous me voyez venir, Jean-Michel Autoniel, c'est parce que vous avez réalisé pour le nouveau musée national du Qatar, conçu par l'architecte Jean Nouvel, un projet conçu à l'échelle monumentale du bâtiment, comprenant 114 sculptures de fontaines, dont les jets d'eau évoquent les formes fluides de la calligraphie arabe. Comment vous avez eu l'idée de vous inspirer de la calligraphie arabe ?
En fin de compte, c'est arrivé aussi par les fleurs. Mais ce qui est très beau dans ce projet, c'est ce dialogue avec un architecte. Et ça, c'est une chose que j'aime faire dans mon travail, parce que ça me sort peut-être du studio, ça me fait voir aussi les choses en plus grand, plus souvent avec des contraintes ou des, je dirais, des exercices à relever, enfin, qui sont très, très, très complexes, puisque l'œuvre en espace public, c'est une chose que j'aime faire, mais qui a des contraintes incroyables. Et là, au Qatar, évidemment, la chaleur, l'eau salée, ces fontaines en eau salée, c'était pas rien. Et travailler avec Jean Nouvel, c'était pas rien. C'était un vrai dialogue avec cette architecture magnifique qu'il a fait inspirer par la rose des sables. Et moi, je me suis inspiré de ces calligraphies et de ces herbes qu'on voit dans le désert qui bougent et qui s'appellent Alpha, d'où le titre de cette énorme installation qu'on ne voit pas d'un seul regard, qui est un peu comme un travelling, comme ça, il faut longer cet énorme bassin qu'a créé Jean Nouvel pour voir se déployer dans l'espace toutes ces grands roseaux, en fin de compte, et quand on tourne, on voit que ces roseaux, ce sont des lettres.
Le cosmos, la matière et la lumière peuplent votre œuvre jusqu'au 4 janvier prochain. On peut aussi voir l'exposition Poussière d'étoiles au Centre d'art La Malmaison à Cannes. Un petit mot dessus ?
Oui, c'est une exposition très complémentaire de celle d'Avignon, dans le sens où c'est un espace totalement différent. C'est un espace d'un hôtel particulier qui a été restauré par Villemotte, donc un autre architecte, Villemotte fils, hein, pas père. Et c'est un espace où on est vraiment très proche des œuvres. On est la tête dedans, on est vraiment dans un rapport très intime, très sensuel, on peut toucher les œuvres presque. Et ce qui ne sera pas le cas à Avignon, puisqu'à Avignon, les espaces sont tellement gigantesques, tellement... voilà, avec un souffle monumental. Donc je crois que les deux expositions sont très complémentaires. Et cette idée de poussière d'étoiles, de cet or qu'on retrouve aussi bien à Avignon, qui vient de cette collision des supernovas il y a des millions d'années et qui, en fin de compte, est tombée sur Terre. L'or n'est pas un matériau terrestre, c'est un matériau qui nous vient des étoiles.
Donc, je suis émerveillée. Alors, je pense à vos émerveillements d'enfant, à vos premiers émois artistiques. Je crois que c'était Picabia, le fiancé,
oui.
Et Jim Dine, l'américain. Est-ce qu'à l'âge adulte, vous avez eu un émerveillement similaire ou ça décroît forcément quand on grandit ?
Je ne crois pas que ça décroît parce que moi, je suis toujours curieux de ce qui se passe en art. Et je pense qu'il y a plein d'artistes qui font des choses aujourd'hui et qui continuent, je pense, à amener d'autres façons de voir le monde. Et c'est ça qui est merveilleux en art. C'est-à-dire qu'il y a, l'art ne se fige pas, c'est quelque chose en mouvement, en constante évolution. Et donc il y a plein de jeunes artistes, et c'est pour ça que j'aime d'ailleurs diriger cette Villa Dufresne que vous évoquiez, parce que chaque année, il y a 10 jeunes artistes qui viennent autour d'un thème et on prépare une exposition, on réfléchit à ce thème et je découvre ce à quoi rêvent les artistes aujourd'hui, à la jeune génération. Et ça, c'est toujours une source d'émerveillement.
Et qui vous a bousculé récemment ?
qui m'a bousculé récemment, alors j'avais la chance d'être à Cannes pendant le festival. Donc c'est un film en fin de compte qui m'a bousculé. J'ai eu la chance de voir en avant-première Enzo, et c'est un film très très perturbant parce que c'est un film où on a l'impression que tout va se casser la gueule, que ça va être un drame, et en fin de compte ça n'arrive jamais. Et tous les personnages représentent que des gens bienveillants. Et ça fait beaucoup de bien de voir un film comme ça.
Nous apprenons aujourd'hui la vie à travers les médias. On a l'impression de savoir tout. En vérité, on sait absolument rien. On voit des images. Mais l'expérience qu'on a, c'est l'expérience qu'on a dans sa vie de tous les jours. Et si on regarde la télé, on a l'impression d'être entouré par un univers de violence qui existe naturellement partout au monde. Mais si on compare ça avec sa propre vie, c'est assez rare. Alors, on a une fausse image de la réalité à travers les médias. Et je trouve que c'est un certain danger aussi politiquement, parce qu'on peut nous raconter n'importe quoi, on est obligé de le croire, parce qu'on n'a pas la possibilité de le vérifier. Et aussi parce qu'on s'habitue à cette certitude qui est transmise par les médias, que le monde est comme elle est montrée dans les médias.
Anne Queue, en 2008, au micro de Laure Adler sur France Culture. Jean-Michel Autoniel, je sais que vous avez adoré deux films de Anne Queue. J'en profite puisque vous parliez d'un film juste avant. C'était Bénisse Vidéo et La Pianiste, donc deux films très violents. Est-ce que vous aimez être dérangé?
J'aime être réveillé. J'aime être sorti de mon monde, qui est un monde plutôt petit, celui du monde de l'art contemporain. C'est un peu paradoxal d'ailleurs avec cette grande exposition monumentale avec tant d'œuvres données à tous. En général, le monde de l'art est quand même un monde intime et un peu à part. Et donc c'est vrai que la pianiste, par exemple, Isabelle Huppert, elle m'a scotché, quoi. Et en même temps, j'ai aimé et je me suis dit j'aimerais avoir cette violence en moi, cette radicalité, ce désir de vie qu'elle exprime et que je trouve formidable dans ce film.
Vous n'avez pas de violence en vous ?
Non, je ne pense pas être quelqu'un qui parle de ça et qui le vive. J'ai très peur de la violence, je la fuis. Mais quand elle est aussi bien interprétée que par Isabelle Huppert dans ce film, on ne peut être que fasciné. Oui.
Qu'est-ce que vous lisez ?
Alors, à part Pétrarque, Pétrarque m'a amené à lire les sonnets de Shakespeare, relire ceux de Michel-Ange que j'avais lu quand j'étais encore aux Beaux-Arts, qui sont formidables, quoi. Cette vision de l'amour absolu, j'aime la poésie. Je trouve que la poésie, aujourd'hui, c'est vraiment... Peut-être pour rebondir sur ce que disait Anne Queue, c'est quelque chose qui peut lutter contre justement cette violence que nous imposent les médias. Parce qu'elle est radicale, elle est concise, elle nous amène ailleurs, sur un terrain de création, de construction, un terrain positif, et sans évacuer, je dirais, les problèmes de société. Au contraire, elle en parle différemment.
Et ça se cultive, cet accès à la poésie. Merci beaucoup Jean-Michel Autoniel.
Ben non, merci à vous. Merci pour cette interview intime.
Oui, mais j'espère que ça vous a pas gêné. J'étais pas impudique, j'essaye de jamais être impudique.
Non, non, ça m'a pas gêné. Ça m'a permis peut-être de poser des choses.
Très bien. Votre exposition Autoniel, Cosmos ou les fantômes de l'amour sera visible à Avignon du 28 juin au 4 janvier 2026 dans une dizaine de lieux emblématiques de la ville. L'événement sera accompagné par la sortie d'un livre illustré de vos aquarelles et accompagné de textes de Colin Lemoine chez Actes Sud, où paraîtra également le catalogue à l'automne. Une exposition intitulée Autoniel, The Enchantment est visible jusqu'au 7 septembre au Long Museum de Shanghai, et une autre, Poussière d'étoiles, à la Malmaison à Cannes jusqu'au 4 janvier prochain. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Betty Algray et Franck Olivard. Programmation musicale assurée par Juliette L'Orphelin, et à la technique, Laurent Baudouin. À demain, 20h10.